si vous laissiez faire ce vent qui vous ôte votre chemise. La mienne, je l'ai déjà mise au sable pour faire un divan. Je ne voudrais vous offenser, mais trouveriez-vous saugrenue l'idée que moi nu et vous nu restions un instant enlacés. Si sur votre sein frémissant se posait un odieux moustique, pourrais-je avant qu'il ne vous pique le chasser d'un doigt caressant? Et si le reste de ma main, emporté dans sa folle course, allait s'abreuver à la source des fruits de vos lèvres carmin, trouveriez-vous désobligeant si j'usais de mille manières pour remonter votre rivière comme le saumon vivageant? Restant votre humble serviteur, permettez que je vous demande votre aide fervente et gourmande. Ceci en tout bien, tout honneur. Et comme vous semblez d'accord, explorons-nous avec patience. J'offre mon corps à votre science. Offrez le vôtre encore, 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 encore.
Oui, les gars, à chaque fois qu'on arrive à ce moment de la chanson, je me dis, mais c'est dommage, quoi, ça part bien, ça monte, c'est... Et puis ça va pas vraiment au bout, quoi. Ça.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture d'un livre que nous avons commencé ensemble. Les Brutes en blanc de Martin Winkler. Donc, je peux rappeler un peu en quoi ça consiste. Eh bien, ce livre a pour sous-titre La maltraitance médicale en France. Et pour rappeler un peu ce qui nous a été. Ce qu'on a pu passer dans les émissions précédentes concernant le contenu de ce livre, Je vais vous lire un extrait de l'introduction. Un soignant ou une soignante est une personne comme les autres et non un être d'exception. Ses intérêts personnels comptent au moins autant que ceux des patients. Même quand on a choisi de s'engager dans une profession de santé, le fait d'avoir été formé aux soins ne confère aucune supériorité morale sur le commun des mortels. Si, depuis le serment d'Hippocrate jusqu'au code de déontologie contemporain, les sociétés ont édicté des règles interdisant aux médecins d'abuser de leurs fonctions, c'est bien parce que la tentation et le risque d'abus sont réels. Rien ne garantit qu'un professionnel de santé adoptera une attitude irréprochable à l'égard des patients. Pour l'amener à bien se comporter, il lui faut fixer des règles de conduite. Je passe un paragraphe. Après la Seconde Guerre mondiale, en réaction aux multiples violations des droits humains, non seulement par des médecins de l'Allemagne nazie, mais aussi par ceux de France et de nombreux pays d'Europe, des États-Unis et du Canada, l'éthique du soin fit l'objet d'une réflexion philosophique, sociologique et juridique élargie. Cette réflexion internationale et multidisciplinaire donna naissance au cours des années 70 à une discipline nouvelle, la bioéthique. Pour les bioéthiciens, une pratique éthique du soin repose en premier lieu sur le consentement éclairé du patient ou, quand il s'agit d'une expérimentation médicale, du volontaire sain. En voici les principes fondamentaux. La bienfaisance, la non-malfaisance, le respect de l'autonomie du patient, la confidentialité, qu'on appelle aussi secret médical, la justice, les soins devraient être délivrés à tous les patients avec la même diligence, les ressources et les mêmes ressources. À ces principes devraient s'ajouter deux attitudes, écrit l'auteur. D'abord, la bienveillance, elle précède toute action de soins. Ce n'est pas une règle morale, c'est la posture que manifeste le soignant et qui vise à faciliter la rencontre, les échanges au moment où le patient s'adresse à lui. Ensuite, le souci. Il porte sur le confort du patient et son bien-être pendant les soins et après. Il s'intéresse à tout ce qui n'est pas proprement médical, son humeur, ses inquiétudes, son chagrin. Voilà, donc Martin Winkler, né en 1955, a exercé la médecine générale en France de 1983 à 2008, en zone rurale et à l'hôpital. Il est l'auteur de « La maladie de Sache »,« Le cœur des femmes » et « En souvenir d'André ». Il vit désormais au Canada, et où il participe à la formation de futurs médecins à l'Université McGill et à l'Université d'Ottawa. Alors cette présentation de l'auteur, Martin Winkler, date de 2015. Le livre étant édité en 2016. Donc, voilà, peut-être qu'il est à la retraite maintenant, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous aborderons le chapitre 5, intitulé « Vaccin, cholestérol, cancer et ostéoporose ». La, entre guillemets, « prévention maltraitante ». L'une des missions du corps médical réside dans la prévention et le dépistage précoce des maladies. La prévention consiste, lorsque c'est possible, à éviter une maladie par une mesure simple. Prescrire de la vitamine D aux nourrissons pour leur éviter un rachitisme, une mauvaise calcification de leurs os, ou les vacciner contre les maladies infantiles les plus graves, sont des gestes de prévention courants. Il ne fait aucun doute à mes yeux, écrit Martin Winkler, que la vaccination permet de prévenir un certain nombre de maladies infectieuses virales très graves, telles la variole ou la poliomyélite. La variole a été éradiquée en 1977, la polio est en passe de l'être bientôt, en 2016, je le répète. Le dernier cas français remonte à 1989. En 2015, on a recensé que 75 cas dans le monde, dans deux pays seulement, l'Afghanistan et le Pakistan. Il n'est pas douteux non plus que d'autres vaccins permettent de protéger adultes et enfants contre des maladies invalidantes, sinon mortelles. La diphtérie, inflammation des voies respiratoires et asphyxie. Le tétanos, trouble neurologique et musculaire pouvant entraîner la mort. La rougeole, qui peut provoquer une encéphalite mortelle ou laissant de graves séquelles neurologiques. Les oreillons, responsables d'inflammation des gonades ou de surdité. La rubéole, qui provoque des malformations graves du fœtus. Mais certains vaccins ne sont utiles que dans certaines zones de la planète, fièvre jaune, choléra, fièvre typhoïde, ou dans des situations particulières, rage en cas de morsure par un animal infecté, par exemple. D'autres sont destinés à juste titre à protéger des personnes très vulnérables, vaccins contre la varicelle ou exposées à des maladies potentiellement très graves, hépatite B par exemple. Autant dire qu'il n'est pas nécessaire de vacciner tout le monde contre tout. D'ailleurs, en France, seuls 3 vaccins sont imposés par la loi, diphtérie, tétanos et polio. Le BCG n'est plus obligatoire chez l'enfant depuis 2007. Il est seulement recommandé aux enfants en situation à risque. Et pour les professionnels de santé, le BCG n'est plus obligatoire depuis 2010. La surenchère vaccinale. Mais au fil des années, le calendrier des recommandations vaccinales s'est beaucoup alourdi, ce qui a provoqué la protestation et l'inquiétude de nombreux parents. Car les vaccinations ont au moins des effets secondaires, bénins mais pénibles, fièvre élevée pour la coqueluche, douleurs et inflammations au point d'injection pour de nombreux vaccins. D'autres effets secondaires, rares mais très inquiétants, ont été attribués au vaccin contre l'hépatite B et au tout récent vaccin contre les papillomavirus, présenté comme vaccin contre le cancer du col. Et plus le nombre de personnes vaccinées est grand, plus le nombre de patients souffrant d'effets secondaires graves augmente. Leur pourcentage reste faible. Mais pour chaque personne touchée, c'est une catastrophe à 100%. Les patients qui adoptent une attitude anti-vaccinale sont souvent vilipendés et considérés comme des personnes rétrogrades et opposées à tout changement. C'est une description hâtive car les motivations de leur hostilité à la vaccination ont des origines nombreuses et diverses. Au cours de ma carrière, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de recevoir des parents rejetés par des médecins qui n'avaient purement et simplement pas voulu discuter la question des vaccinations de leur enfant. Dans leur immense majorité, ces parents n'étaient pas du tout irresponsables, mais soucieux. Ils s'interrogeaient sur l'utilité des vaccins et ils avaient le droit de le faire, puisque les médecins eux-mêmes sont censés s'interroger sur la justification de leurs actes. La plupart étaient arrivés à une conclusion mesurée. Certains vaccins sont indispensables, d'autres pas. Néanmoins, ils voulaient être sûrs de ne pas faire courir un risque indu à leur enfant, ni en imposant des vaccins superflus, ni en refusant un vaccin protecteur. Ces dernières années, les principaux débats ont porté sur la vaccination contre les papillomavirus HPV censés prévenir le cancer du col. Note 1. Pour en savoir plus, on lira avec profit la piqûre de trop, point d'interrogation. Pourquoi vaccine-t-on les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus ? Par Catherine Riva et le docteur Jean-Pierre Spinoza, édition Xenia, 2010. Alors, oui, cette mode, entre guillemets, de papillomavirus, ça date évidemment des années 2015. On n'en parle plus aujourd'hui. La bataille fait rage entre les partisans de la vaccination à tout prix, y compris celle des petits garçons, et celle des anti-vaccinaux farouches. Pour les personnes qui aimeraient trouver un moyen terme, la réflexion est difficile, d'autant que les deux camps extrémistes ne tolèrent justement aucune position intermédiaire. Alors, ici encore, je vais parler pour ceux qui ne veulent pas être binaires, mais qui, j'en fais partie, se considèrent comme des variants entre les deux extrêmes. Les HPV, papillomavirus sont présents partout et se transmettent très tôt à tous les individus. Ils sont l'un des facteurs d'apparition du cancer du col, mais pas le seul. Le cancer du col est un cancer très facile à prévenir par le frottis de dépistage. Dans les pays où le frottis est accessible à toutes les femmes, la Finlande par exemple, les décès par cancer du col ont disparu. La mesure de prévention numéro 1 de ce cancer, c'est donc le frottis. Les vaccins contre les HPV préviennent l'infection par le HPV. Ils ne préviennent pas le cancer du col. Car pour démontrer qu'ils ont cet effet, il aurait fallu suivre des femmes vaccinées depuis leur vaccination à 10 ans et jusqu'à leur 65 ans et rechercher si le cancer du col était moins fréquent pour elles que pour les non-vaccinées. Or, pour des raisons évidentes, le vaccin n'a été conçu qu'au début des années 2000, nul n'a eu le temps d'effectuer un suivi aussi long. Tout vaccin est susceptible de produire des effets indésirables. Les plus graves sont rares, mais le risque n'est pas nul. Administrer un vaccin dont on ignore la dangerosité contre une maladie qu'on peut prévenir simplement, c'est faire courir un risque inutile. D'abord, ne pas nuire. Et enfin, pourquoi imposer un vaccin douteux à une fillette de 9 ans alors qu'elle pourra décider par elle-même si elle le désire après avoir étudié la question de le faire à 18 ans ? En conclusion, sur cette question, ma perception des choses est donc relativement simple et nuancée. Quand il s'agit d'une maladie fréquente, très contagieuse et potentiellement très grave, diphtérie, tétanos, polio, rougeole, coqueluche, hépatite B, les avantages de la vaccination apparaissent infiniment supérieurs à ses risques. S'agissant d'une maladie non contagieuse, le cancer du col, pour laquelle une autre prévention existe, le frottis de dépistage du cancer du col reste indispensable même si on a été vacciné contre le HPV, la vaccination d'une petite fille peut être sans danger repoussée à plus tard et laissée à l'appréciation de l'adolescente ou de l'adulte qu'elle sera au vu des données scientifiques disponibles. Et s'il s'agit d'une maladie récurrente qui menace certaines personnes plutôt que d'autres, la grippe par exemple, il appartient à ces personnes de décider si elles se vaccinent ou non. Les injonctions sans nuance, dans un sens comme dans l'autre, sont anti-scientifiques et contraires à l'éthique. On ne comprend donc pas pourquoi tant de pédiatres et de médecins généralistes traitent d'inconscient les parents qui préfèrent ne pas administrer à leurs enfants toute la batterie de vaccins entre guillemets recommandés, 21 doses entre la naissance et l'âge de 14 ans. Culpabiliser des mères qui refusent de vacciner leurs filles contre le HPV ou préfèrent les laisser prendre cette décision elles-mêmes n'est pas seulement une attitude anti-scientifique, et un comportement antiprofessionnel, c'est aussi une violence morale inacceptable. Surtout quand on sait que les politiques vaccinales varient beaucoup d'un pays européen à l'autre. Au Royaume-Uni, aucun vaccin n'est imposé par la loi, pas même pour l'entrée à l'école. On y préfère discuter avec les parents de leurs avantages et inconvénients. Et on ne fait pression sur personne. Sur ce point encore, beaucoup de médecins français n'agissent pas en conseillers ou en défenseurs des patients, mais plutôt en courroie de transmission des industriels. Nous allons faire une pause avec Courge. Et ça va être du disco, mais oui, discothérapie.
adieu l'hiver, le côté rococo, et adieu les gendries, et de discothérapie à la Florière, quand tu t'es discoto, et tu aimeras la vie. Disco, discothérapie, adieu l'hiver, le côté rococo, et adieu les gendries.
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et avec aujourd'hui le livre de Martin Winkler, Les Brutes en Blanc. Et maintenant on va parler du cholestérol. La grande peur du cholestérol. Alors je découvre en même temps que vous hein, ces pages que je n'avais pas lues avant de venir ici. La prévention maltraitante ne concerne pas seulement les vaccins. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la santé publique et tout avec le commerce. Des millions de Français consomment des médicaments pour faire baisser le cholestérol. Or, les recherches portant sur ces traitements n'ont montré leur intérêt que sur une infime partie de la population. Alors, quelques références. Lire en particulier Christian Lehmann, « Patient si vous saviez », édition Lafon. Jörg Blech, « Les inventeurs de maladies », aux éditions Actes Sud, que, entre parenthèses, nous avons, dont nous avons lu aussi de larges extraits à cette antenne. L'excellent blog La Grande Supercherie du Cholestérol, http://phil.phi2l443.unblog.fr/, sauf que peut-être qu'il n'existe plus maintenant, je ne sais pas, 10 ans après. Et Bowden G. N. Sinatra S., Le Grand Mythe du Cholestérol, édition Marabout. Donc les recherches portant sur ces traitements n'ont montré leur intérêt que sur une infime partie de la population. Et pourtant, depuis 4 décennies, l'industrie pharmaceutique, par l'intermédiaire d'un marketing puissant et de porte-parole influents, a incité un grand nombre de médecins à prescrire à leurs patients des produits qui n'ont pas d'intérêt démontré, mais qui ne sont pas dénués d'effets indésirables graves. Très bien, me direz-vous, mais pourquoi le reprocher aux médecins et non aux industriels ? D'une part, parce que les médecins sont censés prescrire en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques, et donc en se mettant à jour. D'autre part, parce qu'ils doivent aussi informer les patients et respecter leurs choix. Or, beaucoup de médecins ne font ni l'un ni l'autre. Ainsi, nombre de praticiens ordonnent un dosage du cholestérol en préalable à la prescription ou au renouvellement d'une pilule contraceptive, alors que ce dosage n'a aucune signification chez une femme en bonne santé de moins de 50 ans. Le cholestérol s'élève naturellement lors de la prise de la pilule parce que l'organisme s'en sert pour transporter les hormones. Le cholestérol s'élève aussi pendant la grossesse pour cette même raison. Ce cholestérol-là, fabriqué par l'organisme, n'est pas dangereux. Pourtant, maintes utilisatrices de pilules s'entendent dire qu'il leur faut cesser leur contraception, faire un régime ou prendre des médicaments pour faire baisser un cholestérol qui a augmenté naturellement et passagèrement. D'autres se voient refuser une pilule parce qu'elles ne désirent pas faire doser leur cholestérol tous les 4 matins pour rien, car les femmes s'informent souvent mieux que leurs médecins. Si la prescription est aussi irrationnelle pour les femmes jeunes, peut-elle vraiment être raisonnée quand il s'agit des autres patients ? D'autant que la prescription de médicaments destinés à faire baisser le cholestérol n'est pas dénuée de danger. Dans un dossier très détaillé publié en 2013, statines se posaient des questions, accessible en ligne à l'adresse prescrire.org. Donc là aussi, c'était il y a 10 ans. La revue Prescrire indiquait clairement que seuls les plus récents, les statines, semblent, ce n'est pas absolument sûr, diminuer la mortalité des personnes traitées, mais que le régime alimentaire méditerranéen, riche en huile d'olive, fruits et végétaux et pauvre en graisses animales, est tout aussi efficace et sans danger. Tous les médicaments, en revanche, y compris les statines, provoquent des effets secondaires parfois graves, du diabète aux atteintes des reins, en passant par les douleurs musculaires et de possibles effets cancérigènes. Tout ça pour traiter une maladie qui n'existe pas. Cela peut paraître surprenant, mais beaucoup de médecins français, du fait même de leurs insuffisances scientifiques, de leur manque de rigueur et surtout de leur absence de soucis pour les patients, se comportent d'une manière qu'on pourrait qualifier de désinvolte et négligente. Comme s'il était sans conséquence d'ordonner des prises de sang sans savoir quelles informations elles sont susceptibles d'apporter, de prescrire des médicaments sans connaître leurs effets indésirables, de médicaliser à outrance des personnes en bonne santé. Beaucoup de praticiens aujourd'hui se comportent comme Knock, le médecin manipulateur de Jules Romain. Pour eux, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Au besoin, il s'arrange pour le rendre malade de peur. Mammographie et campagne de peur. Cancer du col de l'utérus et cancer du sein sont les deux cancers féminins les plus fréquents. Le premier, on l'a vu, fait depuis une dizaine d'années l'objet d'une campagne de harcèlement et de culpabilisation des mères autour du vaccin anti-HPV. Je rappelle que c'était en 2015. Le second donne lieu depuis 30 ans à une campagne de peur visant toutes les femmes. Le cancer du sein est, dans l'immense majorité des cas, un cancer qui survient après la ménopause. En France, on diagnostique un cancer avant 40 ans chez 12 femmes sur 100 000. En revanche, le risque pour une femme d'avoir un cancer du sein avant 90 ans est de 10%, ce qui signifie que 90% des femmes n'auront jamais de cancer du sein. Par ailleurs, les pays développés sont aussi ceux où les cancers sont les mieux soignés et la survie la plus longue. Le dépistage précoce du cancer du sein par la mammographie est présenté comme la mesure indispensable pour traiter au plus tôt et donc pour accentuer les chances de guérison. Or, cela n'est qu'en partie vrai pour la plupart des femmes qui n'ont pas d'antécédent familial. Parentes proches ayant souffert d'un cancer du sein, la mammographie précoce n'est en rien justifiée. C'est un examen pénible, peu fiable chez une femme non ménopausée et qui irradie le sein avec des rayons X, dont le potentiel carcinogène est connu. Dans la plupart des pays industrialisés aujourd'hui, un nombre croissant de travaux suggère donc de ne pas recommander de mammographie systématique avant l'âge de 50 ans. La mammographie est recommandée à partir de 40 ans pour les seules femmes à risque, histoire familiale du cancer du sein survenu avant 50 ans. Et avant 40 ans, elle est toujours inutile. Mais le cancer du sein est une maladie dont la symbolique est très forte, et les discours culpabilisants à son sujet ne manquent pas. Ces derniers ne sont pas altruistes. Toute une industrie repose sur le dépistage systématique. Depuis la fabrication des appareils à mammographie jusqu'à celle des produits anticancéreux, en passant par l'appareillage servant aux biopsies et à leur analyse. Sans parler des médecins, radiologues, anatomopathologistes, cancérologues, gynécologues, qui, tout de même, en font leur fonds de commerce. Ici encore, on pourrait attendre des professionnels qu'ils tiennent un discours rassurant et pondéré. Il n'en est rien. Certes, les inquiétudes des femmes sont toujours respectables, mais au lieu d'y répondre par des faits rassurants, beaucoup de médecins français réagissent par la surenchère quand ils ne prennent pas carrément les devants en prescrivant des mammographies à des personnes de 25 ou 30 ans qui n'ont rien demandé. Or, que dit la communauté scientifique internationale ? La Fondation Cochrane organisme indépendant qui analyse les résultats des essais cliniques médicaux et fait référence chez les médecins, mais on le comprend, pas chez les industriels du monde entier, a publié en 2012 une brochure accessible en français sur le site nordique.cochrane.org, nordique avec un C à la fin, et dont le résumé dit précisément ceci. Il peut être raisonnable de participer au dépistage du cancer du sein par mammographie, mais il peut être tout aussi raisonnable de ne pas s'y soumettre, parce que ce dépistage présente à la fois des bienfaits et des dommages. Si 2000 femmes sont examinées régulièrement pendant 10 ans, une seule d'entre elles bénéficiera réellement du dépistage par le fait qu'elle évitera ainsi la mort par cancer du sein. Dans le même temps, 10 femmes en bonne santé deviendront à cause de ce dépistage des patientes considérées comme cancéreuses et seront traitées inutilement, parce qu'on aura trouvé et traité comme un cancer une anomalie qui n'était pas un cancer. Ces femmes perdront une partie ou la totalité de leur sein et elles recevront souvent une radiothérapie et parfois une chimiothérapie. En outre, environ 200 femmes en bonne santé seront victimes d'une fausse alerte. Le stress psychologique de l'attente du résultat, pour savoir si elles ont vraiment un cancer, et celui de la suite des soins, peut être sévère. Ces chiffres de 2008 proviennent d'essais randomisés de dépistage par mammographie. Cependant, depuis que ces essais ont été effectués, le traitement du cancer du sein s'est considérablement amélioré. Les études les plus récentes suggèrent que le dépistage par mammographie peut ne plus être efficace pour réduire le risque de mourir du cancer du sein. Le dépistage produit des patientes faussement atteintes d'un cancer du sein, mais dites patientes atteintes d'un cancer du sein, à partir de femmes en bonne santé qui n'auraient jamais développé de symptômes de cancer du sein. Voilà ce que produit le dépistage. Le traitement de ces femmes en bonne santé augmente leur risque de mourir, par exemple, d'une maladie cardiaque et de cancer. Des femmes sans cancer sont traitées comme si elles en avaient un. Or, chirurgie et chimiothérapie compromettent le système immunitaire et favorisent l'apparition de cellules cancéreuses dans d'autres organes. De plus, les traitements anticancéreux sont toxiques pour le cœur. Il ne semble donc plus aussi raisonnable de participer au dépistage du cancer du sein. En fait, en évitant de participer au dépistage, une femme va diminuer son risque de recevoir un diagnostic de cancer du sein. Voilà, fin de l'extrait de la brochure nordique.cochrane.org. En résumé, ce que la mammographie de dépistage montre chez les femmes de moins de 50 ans, c'est une image suspecte. Cette image n'est pas nécessairement un cancer. La biopsie ne permet pas toujours de conclure, car elle consiste à prélever des cellules qui seront examinées par un anatomopathologiste, autrement dit un être humain, lequel a tendance à conclure de manière prudente s'il voit au microscope des cellules entre guillemets suspectes, mais pas franchement cancéreuses, la plupart des cancérologues vont suggérer, dans le doute, d'opérer. Parfois, on ne peut pas conclure en analysant la zone suspecte enlevée. Alors, dans le doute, on fait la chimio, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la surmédication, la surmédicalisation. On opère des femmes alors qu'on n'est pas sûr qu'elles ont vraiment un cancer. Parmi elles, beaucoup n'ont pas de cancer. On les opère pour rien. La bonne attitude consisterait d'une part à ne plus rechercher des cancers aussitôt, car plus les images sont petites, moins il est sûr que ce soit un cancer, et quand on commence à faire des mammographies, à ne pratiquer des biopsies que sur les anomalies importantes ou qui se modifient vite. Avec les traitements disponibles aujourd'hui, la survie est identique même si on soigne les cancers du sein au stade de tumeur palpable par la femme, donc bien plus volumineuse que lors d'un dépistage par mammographie. Il est donc légitime d'attendre non seulement pour les femmes qui n'ont pas vraiment un cancer et à qui on va épargner des traitements inutiles, mais aussi pour celles qui en ont, qu'on opérera, traitera plus tard sans perte de chance de vie, mais avec une plus grande qualité de vie pendant les années précédant le traitement. Autrement dit, il appartient aux femmes de choisir de subir ou non une mammographie précoce avant 50 ans, en connaissance de cause. Maintenant... Ah, j'ai perdu ma... voilà. Oui, ah voilà. Maintenant, une question aux lectrices. En vous prescrivant la mammographie, votre médecin vous a-t-il expliqué qu'on risquait de vous trouver une tumeur qui n'existe pas ? En Angleterre, le site de référence sur le cancer, Cancer Research UK, indique par exemple que la mammographie avant 50 ans n'a pas prouvé qu'elle diminue clairement, qu'elle diminue la mortalité. La mammographie n'a pas prouvé qu'elle diminue la mortalité par cancer du sein. Et il indique clairement que certaines femmes subiront après dépistage un traitement inutile. En 2012, le surdiagnostic lié au dépistage concernait près de 4000 femmes au Royaume-Uni, traitées sans raison. De son côté, le site de la Société canadienne du cancer indique, je cite, « La recherche a démontré que le dépistage du cancer du sein chez les plus jeunes femmes, celles qui ont moins de 50 ans, peut mener à beaucoup plus de faux résultats positifs. Et il subsiste encore un doute à savoir si les mammographies régulières chez les femmes de moins de 50 ans permettent de sauver des vies. » Fin de citation. Dans d'autres pays que la France, les femmes sont manifestement mieux informées et traitées comme des adultes. Les lectrices qui désirent en savoir plus consulteront l'excellent ouvrage de Rachel Campergue, « Nos mammos ?» Enquête sur le dépistage du cancer du sein, édition Max Milo, 2011. Alors, voilà, on va faire une deuxième pause avec... une autre chanson de Courge. Et je pense qu'elle s'intitule « Chaussures ».
Chaussures, 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 chaussures. chaud, je suis rejet chaud, je suis rempli de chaud, c'est sûr, c'est que cette chaussure, quelle chose, c'est sûr, c'est sûr,
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie et de manière plus générale aujourd'hui du pouvoir médical. Avec des citations de Les Brutes en Blanc de Martin Winkler. Ce livre donc a pour sous-titre La maltraitance médicale en France. Et nous allons parler maintenant de l'ostéoporose, virgule, maladie entre guillemets, de la ménopause. Autre, entre guillemets, dépistage très proposé, celui de l'ostéoporose aux femmes ménopausées. Là encore, nous avons affaire à une escroquerie de grande envergure. Autrefois, il y a 50 ans, l'ostéoporose touchait un grand nombre de femmes ménopausées parce qu'elles avaient été sous-alimentées, avaient souffert de maladies infectieuses répétées, eu des grossesses nombreuses, étaient soumises à des conditions de vie très difficiles. De ce fait, leurs os n'étaient pas toujours bien calcifiés et après 65 ans, les fractures du col du fémur, des vertèbres, étaient fréquentes. Depuis la fin du XXe siècle, en France, la majorité des femmes mangent à leur faim, absorbent de la vitamine D et du calcium, sont soignées quand elles sont malades, sont suivies pendant leur grossesse et l'âge de la ménopause est plus tardif, 50 à 55 ans. Quand elles atteignent la soixantaine, elles sont rarement carencées en calcium et au moment de la ménopause, leur masse osseuse est optimale. Même si elles décident de ne pas utiliser un traitement hormonal substitutif, la prise de vitamine D l'hiver et l'absorption de produits laitiers suffisent. C'est compter sans l'industrie pharmaceutique qui, depuis 20 ans, pousse les médecins à proposer systématiquement une ostéodensitométrie aux femmes ménopausées et à leur prescrire des traitements destinés à éviter des fractures. L'ostéodensitométrie est un examen simple et indolore, alors que la mammographie ne l'est pas. Cela ne justifie pas pour autant d'en faire un examen systématique. En 2007, la revue Prescrire, fidèle à sa critique de l'industrie pharmaceutique, a publié une synthèse concernant l'ostéodensitométrie chez les femmes ménopausées. Alors, référence est ostéodensitométrie chez les femmes ménopausées en bonne santé, la revue Prescrire, numéro 285, juillet 2007. Et donc, a publié ça, et on a conclu, la plupart des fractures des femmes ménopausées surviennent entre 50 et 60 ans en l'absence d'ostéoporose. Deuxième chose, les médicaments prescrits pour lutter contre l'ostéoporose ont d'autres effets indésirables graves pour être prescrits à des femmes qui n'en ont pas besoin. 3. Une ostéodensitométrie n'est utile qu'après une fracture, pas de manière systématique chez toutes les femmes ménopausées. Et quatrième, seules les femmes qui ont déjà subi une fracture et dont l'ostéodensitométrie montre une ostéoporose importante ont besoin d'être traitées. Question aux lectrices de plus de 50 ans. Votre médecin vous a-t-il expliqué cela avant de vous proposer une ostéodensitométrie et ou un traitement préventif, entre guillemets, des fractures dues à l'ostéoporose ? Autre sous-chapitre du chapitre 5, le chapitre 5 intitulé « Vaccin, cholestérol, cancer et ostéoporose, la prévention maltraitante, touche pas à ma prostate ». Les hommes de tous les âges, eux aussi, font l'objet de la maltraitance médicale préventive. La différence, c'est qu'il ne se présente pas volontiers chez le médecin. Pour qu'ils le fassent, il faut qu'on les y oblige, ou qu'ils aient très peur. À l'adolescence, le certificat médical pour le sport est le plus souvent une occasion ratée. Peu de médecins en profitent pour proposer aux garçons de répondre à leurs questions sur la santé, et il faut le reconnaître, peu de garçons ont envie de parler de ça. Entre 20 ans et 50 ans, la plupart des hommes ne consultent pas de médecins, sauf de manière épisodique. En revanche, après 50 ans, c'est une autre histoire. En 2011, sous le titre de « Cancer de la prostate, ne passez pas à un doigt du diagnostic », une campagne médiatique mettait en scène une quinzaine de médecins de renom, le pantalon baissé et l'index en l'air. Le message était simple, pour ne pas dire simpliste, afin de dépister le cancer de la prostate, il suffit d'un toucher rectal fait par le médecin. En attirant l'attention sur le doigt dressé et intrusif tout de même de cette brochette de médecins réputés et en laissant entendre que c'est pour le bien des patients, la campagne opérait un tour de passe-passe parfaitement mensonger. Car pour dépister un cancer débutant, la valeur diagnostique du toucher rectal est inexistante. Mais en invitant les hommes à aller se faire mettre gratuitement un doigt dans le derrière, on permet aux médecins de leur prescrire la prise de sang et le test payant qui constituaient les vraies motivations de cette campagne d'information, entre guillemets. Ce test, qu'on appelle PSA, prostatique spécifique antigène, antigène prostatique et spécifique, n'est en fait pas fiable du tout. Il est faussement positif 7 fois sur 10 chez des hommes qui n'ont pas de cancer. Si le résultat du test inquiète le médecin, celui-ci sera tenté d'ordonner une biopsie, qui consiste à introduire une longue aiguille dans la prostate, pour y rechercher des cellules cancéreuses. Dans le meilleur des cas, on ne trouve rien et on est tranquille jusqu'à l'année prochaine, car bien évidemment, il faut remettre ça tous les ans. Dans le pire scénario, on trouve quelques cellules cancéreuses, pas beaucoup, mais par prudence, on opère quand même. Malheureusement, la chirurgie entraîne très souvent une incontinence et ou une impuissance. Chez un homme ayant entre 50 et 60 ans, ce ne sont pas des effets secondaires négligeables. Pire encore, le diagnostic et le traitement d'un cancer de la prostate silencieux, sans symptômes, n'allonge pas la durée de vie des patients. Citons la revue Prescrire. Le dépistage conduit à traiter un grand nombre d'hommes dont le cancer de la prostate serait passé inaperçu et n'aurait pas provoqué de souffrance jusqu'à leur mort d'autres causes. Sur 10 hommes traités pour un cancer de la prostate détecté par dépistage, entre 3 et 8 sont dans ce cas. Ils sont traités pour un cancer dont ils n'auraient subi aucune conséquence. Ils ne tirent pas de bénéfice du dépistage ou du traitement. Mais ils sont exposés aux effets indésirables des traitements, notamment incontinence urinaire et troubles de l'érection. En pratique, le dépistage des cancers localisés de la prostate par dosage du PSA présente plus d'inconvénients que d'avantages. Les bénéfices sont incertains et les effets indésirables sont sévères. Fin de la citation de Prescrire. Autrement dit, étant donné leur âge et la lenteur d'évolution de ce cancer, les hommes qui en sont porteurs, sans le savoir, ont toutes les chances de ne jamais en souffrir et de mourir d'autre chose. Il est donc non seulement inutile, mais nocif de les, entre guillemets, dépister préventivement. Cela conduirait à en mutiler la majorité pour rien. Si un cancer se manifeste, il sera temps d'intervenir, pas avant. Cette position n'est pas seulement celle de la revue Prescrire. Le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, GECSSP, mis en place par l'Agence de la santé publique du Canada, ASPC, ne recommande le dosage du PSA dans aucun groupe d'âge masculin, ni avant 55 ans, ni après 70 ans, ni entre les deux. Une question au lecteur et à leur compagne. Votre médecin vous a-t-il expliqué tout ça entre le moment où il vous a mis un doigt dans le derrière, pour rien puisque c'est un examen sans intérêt, et celui où il vous a envoyé faire une prise de sang, source d'angoisse et peut-être de souffrances inutiles? Voilà, chapitre qui se termine par une question. Et nous allons nous arrêter là en ce qui concerne le livre Les Brutes en Blanc de Martin Winkler, puisque c'est la fin du chapitre 5 et que nous passons à un autre sujet que nous aborderons sans doute donc prochainement, très prochainement, peut-être la semaine prochaine. Un article intitulé « Utérus sous haute surveillance ». D'ailleurs, je peux déjà vous lire le paragraphe introductif. Et voilà, il y aura quand même un long récit autour de cette question. Comme pour tous les phénomènes vivants, la capacité de se reproduire est inégale d'une personne à une autre. À la loterie de la grossesse, certaines femmes gagnent de manière apparemment facile chaque fois qu'elles essaient, d'autres semblent avoir moins de chance. Mais pour toutes, c'est le résultat d'un hasard. Ainsi, certaines infertilités de couple sont liées à l'incompatibilité entre les deux partenaires qui se mettent, comme par miracle, à avoir des enfants quand ils essaient avec quelqu'un d'autre. Voilà, voilà comment ça commence. Et voilà donc ce dont on va parler la prochaine fois. Et donc, qu'est-ce qui est de l'ordre de la maltraitance médicale par rapport à cette situation. Eh bien, je vais encore vous proposer un morceau de Courge, le groupe Courge, le groupe de Matt Conture. Sur Radio Libertaire 89,4, la radio libre de la Fédération anarchiste. We'll be right back. fait d'entendre deux morceaux de Courge. On a entendu I'll Make My Dream Reality et A75. Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Et donc, nous vous disons à la semaine prochaine et bonne écoute des émissions sur Radio Libertaire, La Voix, sans mettre et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste.
Anthropole total, tu es fou enfermé, raison déconnectée, on t'attache à ton lit, tu hurles dans ton délire, tu ne peux plus agir, c'est cela la médecine, des couloirs trop blancs, bois ton médicament, tu es dans quatre murs, des pilules, des piqûres, ça va durer des mois, la folie comme...
Voilà, et maintenant nous vous proposons la rediffusion d'un remue-ménage féministe du mois d'octobre dernier avec Tiffany et Violaine de Philippe Sabaté sur le cyberharcèlement.
On aurait pu rester frangine, ça nous aurait d'à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas. Pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix. J'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
L'indicatif que nous avons choisi est la chanson « Les Frangines » créée et interprétée par Anne Sylvestre.
Radio Libertaire 89.4 sur la FM en Ile-de-France et dans le monde via Internet sur le site de Radio Libertaire. La radio sans Dieu ni maître ni publicité, remue-ménage féministe comme tous les mardis, de 12h30 à 14h30. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, 18 novembre 2025, nos invités sont Tiffany Day et Violaine de Philippis Abbaté. Mon crime est de démasculiniser la langue, c'est un acte de résistance, nous dit Tiffany Day, artiste militante, comédienne, metteuse en scène, formatrice et autrice. Tiffany Day a créé une nouvelle langue, inventé un langage féministe qu'elle a nommé la féminine universelle. En juillet 2022, le Crayon Média a mis en ligne un débat vidéo opposant Tiffany Day et Ralph Muller sur le thème « La langue française discrimine-t-elle les femmes ?» À la suite de sa diffusion, Tiffany Day a été victime d'une vague de haine sur les réseaux sociaux avec des milliers de commentaires haineux appelant au viol et au meurtre de la part de masculinistes. Tiffany Day a porté plainte et 9 cyberharceleurs ont été jugés le mercredi 17 septembre 2025 au tribunal de Paris. Le jugement a été prononcé le lundi 10 novembre. Nous en parlerons pendant l'émission. C'est donc particulièrement au titre de victime de cyberharcèlement que Tiffany Day est notre invitée aujourd'hui dans Remue-Ménage féministe pour en parler en compagnie de Violaine de Philippis Abbaté, son avocate. Aussi militante féministe et autrice de La résistance écarlate, les femmes face au nouveau backlash aux éditions Payot, dont nous parlerons en fin d'émission. Le 17 septembre, jour du procès des cyberharceleurs, par sororité, un nombre important de femmes et quelques hommes, dont certaines représentantes d'associations féministes contre les violences faites aux femmes, et aussi contre les violences faites aux femmes lesbiennes et de défense des droits humains, était venu soutenir et accompagner Tiffany Day sur le parvis du tribunal de Paris avec des discours et des pancartes. En voici un aperçu.